Je m'appelle Mukhatanbana Marthe, j'ai 41 ans, je suis commerçante. Je suis mariée et j'ai deux enfants. Deux garçons, un de 15 ans et un de 9 ans. Avant le génocide, j'avais eu un enfant avec un homme Hutu. Au début des années 90, nous nous sommes séparés pour des raisons ethniques. Il disait que c'était à cause de nous, les Tutsis, que le Rwanda était en guerre. Ensemble, on a eu un enfant. Il s'appelait Mugwaneza. Au moment du génocide, il avait 3 ans et demi. Avec du recul, je réalise ce qui s'est passé. Sur le moment, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait un génocide. On ne pouvait pas imaginer que les tensions entre les partis politiques provoqueraient un génocide jusqu'au moment où ça nous est tombé dessus. Je parle pour moi. Moi, je n'ai rien vu venir. J'étais chez moi. J'ai entendu à la radio qu'il y avait eu un attentat contre l'avion d'Habyarimana, le président du Rwanda. Dans le communiqué, il nous interdisait de sortir de nos maisons. Personne n'était autorisé à se déplacer. Ce n'est qu'après que les massacres ont commencé. On a pris conscience qu'on allait mourir quand ils ont commencé à brûler les maisons et à tuer les gens dans les alentours. Moi, j'ai quitté ma maison le 12 avril. J'ai fui. Je me suis réfugiée ici, dans l'église. On ne pouvait pas imaginer qu'on tuerait même dans les églises. Je pensais qu'ici, on aurait la vie sauve avec mon enfant. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'y suis restée 4 ou 5 jours. L'église était bondée. Il y avait des gens à l'extérieur aussi. L'église a été attaquée. Ils nous ont attaqués. Ils nous ont tués. Ils ont tué mon enfant. Moi, j'en ai réchappé. On entendait les balles siffler. On entendait les coups de machette. Parmi les tueurs, il y avait de tout. Des paysans, des militaires. Tout le monde s'était mis à tuer. Nous avons été quelques-uns à sortir vivants de l'église, mais aussitôt à l'extérieur, ils nous pourchassaient encore. Si tu croisais un tueur, tu étais mort. Quand c'est pas encore ton heure, tu ne meurs pas. J'ai quitté l'église parce qu'ils ont lancé du piment. Le piment nous brûlait. On essayait de sortir, mais les tueurs nous attendaient, les machettes à la main. C'est comme ça que j'ai survécu. C'est impossible de tout raconter dans les détails. Impossible. Mais dans la nuit, aux alentours de 21h, j'ai longé les bords du lac et je suis retournée sur ma colline. Je suis allée me cacher chez un voisin Hutu, un pasteur. Il m'a caché quelques jours, Puis on m'a chassée à nouveau. C'est une longue histoire. Parfois, je dormais dans les buissons. Parfois, quelqu'un acceptait de me cacher. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai passé la nuit dehors. Je me souviens de m'être nourrie de sorgho. Le sorgho, je prenais un épi, je le secouais, je le tordais et je buvais la sève. Ou alors, je mangeais des goyaves. C'était la saison des goyaves. Il arrivait que la faim soit tellement forte qu'elle me pousse à aller mendier de la nourriture. J'avais parfois l'impression de mourir de faim. Si Dieu était avec moi, quelqu'un me donnait à manger, mais souvent, on ne me donnait rien. J'osais seulement sortir la nuit, jamais en plein jour. Je réfléchissais longtemps avant de sortir de ma cachette, vers qui aller, qui aurait pitié de moi. Les jours de chance, on me donnait quelque chose à manger et puis on me chassait. Les jours de malchance, je n'avais rien. Et quoi qu'il en soit, le lendemain, on savait que j'étais encore en vie. Et les tueurs passaient la journée à mes trousses. C'était comme à la loterie. C'est un mystère, c'est inexplicable pour moi. J'essaie de comprendre comment un être humain peut prendre sa machette et tuer. Ça me dépasse, c'est difficile à expliquer. Et d'ailleurs, souvent quand j'y pense, je me demande si Dieu ignorait ce qui se passait, parce qu'il avait la force de tout arrêter avant que tous ces gens soient assassinés. Surtout, ce qui me tracasse le plus, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les autres ont eu la chance de survivre à plusieurs, alors que moi je suis restée seule. C'est très lourd pour moi. Je m'appelle Ouwababieyi Odette. J'ai 41 ans. Je suis agricultrice. Mes parents ont bâti leur maison à côté d'ici. Elle a été entièrement détruite. Je n'ai rien pu récupérer, sauf le lit que notre voisin avait volé. Je n'ai même pas une photo, rien. J'ai tout perdu. J'aurais aimé avoir une photo pour la montrer à mes enfants, leur montrer qui était ma famille. Nous étions 7 frères et sœurs. Ils ont tous été tués pendant le génocide. Nos parents aussi. Je suis la seule survivante de la famille. Au mois d'août 94, je suis venue ici pour voir si quelqu'un avait survécu. C'est à ce moment-là qu'un de mes voisins m'a raconté ce qui s'est passé. Évidemment, il ne m'a pas tout dit. Je sais seulement que ma famille s'était réfugiée à la paroisse. C'était le seul endroit où ils espéraient avoir la vie sauve, mais c'est pourtant là qu'on les a tués, sauf une de mes petites sœurs. J'ai retrouvé son corps dans notre champ. C'est là qu'elle a été tuée. On m'a raconté qu'à l'église, les tueurs attaquaient de tous les côtés et qu'à la fin, ils ne savaient plus eux-mêmes qui ils avaient tué tellement il y avait de réfugiés dans l'église. Moi, je considère que ceux qui ont été jugés et reconnus comme les coupables de ces massacres, ce sont eux qui ont tué ma famille. Mais ils sont tellement nombreux que je ne saurais jamais qui a vraiment tué les miens. Il y a une différence entre les tueurs. Il y a ceux qui sont libres, faute de preuves. Cela veille à ce que l'on ne sache jamais la vérité. Et puis il y a ceux qui reconnaissent leur responsabilité et plaident coupable. Eux, ils ont été condamnés à de légères peines de prison, À leur sortie, ils reviennent sur la colline et ils redeviennent nos voisins. Maintenant, en prison, aujourd'hui, il y a aussi ceux qui s'entêtent à mentir, ceux qui ne reconnaissent pas leurs crimes. Ceux-là sont condamnés à de lourdes peines de prison. Enfin, il y a des tueurs qui ont été reconnus coupables de leurs crimes, mais qui ont fui le pays. Ils ne se sont jamais présentés devant la justice, malgré les preuves qui les accusent d'avoir participé au génocide. J'essaye de vivre avec eux. C'est inéluctable. J'essaye de leur pardonner. Encore faut-il que les assassins viennent te demander pardon. Encore faut-il qu'ils te disent la vérité, qu'ils t'expliquent leurs raisons. Il faut pardonner, parce que le pardon est indispensable dans la vie. Mais mon malheur est de vivre à leur côté, alors qu'ils n'ont jamais voulu me révéler où sont les corps des miens pour que je puisse les enterrer. Et ma vie de misère, c'est aussi de leur faute. C'est un chemin de croix, mais je dois le supporter. Quand je leur dis bonjour, certains me répondent. Qu'ils soient sincères ou hypocrites, ils me font peur. Dans leurs paroles, je vois qu'ils n'ont pas changé, qu'ils n'acceptent pas de vivre avec nous. Ils continuent à avoir beaucoup de haine. Je sens que s'ils le pouvaient, ils recommenceraient. J'ai vraiment peur quand je les croise. Je vous livre mon expérience. Chacun se souvient à sa façon. Pour ma part, je n'oublie pas. Plus la vie passe, et plus je réalise la perte des miens. Les oublier, c'est impensable. Sauf que pour supporter le quotidien, j'essaie de ne pas me laisser submerger par la douleur pour continuer à avancer. Je m'appelle Douce Abimana Joséphine. Je connaissais les risques. On le répétait comme un refrain. On disait aux Hutus que le Tutsi était l'ennemi, l'ennemi commun. On disait que si un Hutu était attrapé en train d'aider un Tutsi, il devrait le tuer de ses propres mains. Et après, on le tuerait à son tour. La radio des Mille Collines le répétait sans cesse. Elle encourageait les Hutus à tuer les Tutsis. J'étais désespérée de voir que l'on tuait des innocents. J'ai décidé d'aider les Tutsis, même si je prenais le risque d'être tuée moi aussi. Heureusement, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Je savais que je n'aurais jamais la force de chasser un Tutsi qui viendrait me demander de l'aide. J'avais accepté l'idée d'être tuée moi aussi. J'ai croisé Pierre et je lui ai demandé « Que fais-tu ici? Tu ne vois pas que les Hutus sont en train de massacrer les Tutsis ?» Tu t'imagines qu'ils vont t'épargner? Il a répondu. Où veux-tu que j'aille? Je lui ai dit, va chez moi. Il y a déjà une autre personne qui se cache. Les deux Tutsis sont restés chez moi 8 jours. La situation allait de mal en pire. Alors il fallait leur trouver une autre cachette. J'ai dit à mon mari, mon père a une pirogue. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour les aider à fuir. Mon mari m'a dit, ne compte pas sur moi pour y aller. Vas-y toute seule si tu veux. Je suis partie. La pirogue était toujours là. Un de mes cousins l'utilisait. Il faisait payer les Tutsis qui cherchaient à traverser le lac pour aller au Congo. Je lui ai dit, j'ai 2 hommes à la maison. Ce soir, je te les amène. Tu me les fais traverser. Il m'a dit, d'accord, mais il faut payer. Je suis rentrée à la maison et je leur ai annoncé que la pirogue était toujours là. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils s'étaient enfuis comme ça, sans rien. Alors, je leur ai proposé de les accompagner et d'essayer de trouver un arrangement. À la tombée de la nuit, il devait être 19h30, nous sommes partis sans mon mari. Il disait qu'il ne voulait pas courir les collines avec ces gens, qu'il ne prendrait pas le risque de se faire attraper et tuer pour eux. J'ai donc proposé d'y aller moi-même. Arrivé chez mon cousin, j'ai frappé à sa fenêtre. Il m'a tout de suite demandé si nous avions l'argent. Je lui ai dit que nous n'avions pas l'argent. Mais comme j'avais des chèvres, je lui ai proposé de les lui donner. J'ai dit, tu prends mes chèvres, mais tu me les fais traverser. J'ai pris Pierre à part et je lui ai dit, tu vois cette personne qui va vous emmener. Il m'a fait payer. Pourtant, c'est un frère. Même si je vous laisse partir avec lui, je ne suis pas en confiance, mais je n'ai pas d'autre choix. Quand vous serez arrivé de l'autre côté du lac, confiez-lui quelque chose pour moi. Dans sa poche, Pierre avait une balle comme celle avec lesquelles les enfants jouent. Il me l'a montré et il m'a dit, regarde cette balle, si tu la revois dans les mains de ton cousin, c'est qu'on est encore en vie. Mon cousin les a fait traverser. Il a pris les chèvres, il m'a ramené la balle et c'est comme ça que j'ai su qu'ils étaient bien arrivés. Alors j'ai remercié Dieu. Plus tard, j'ai aidé encore 3 autres personnes. Parmi elles, il y avait un enfant qui s'était échappé du stade de Kibuye. Il était petit à l'époque. Il avait seulement 10 ans. Aujourd'hui, il vient de terminer ses études. Le 26 mars dernier, c'était la remise de son diplôme. Il m'a demandé de l'accompagner. Il voulait que je sois à ses côtés parce que je suis comme sa mère. En vérité, tous ceux que j'ai sauvés sont comme mes enfants. J'ai du cœur, je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Dieu n'a pas voulu que je devienne un monstre. Dieu n'a pas voulu que je haïsse mon prochain. Les autres ont certainement eu peur, peur de se faire assassiner. Je ne sais pas comment ils voyaient les choses, mais s'ils avaient eu un peu plus d'amour en eux, et s'ils avaient eu un peu plus de courage, par exemple, les milices Interahamwe, ils n'auraient jamais osé s'introduire dans les maisons des riches ou tout pour y chercher des Tutsis. Mais quand je regarde autour de moi, les seuls à avoir aidé, c'est nous, le bas peuple. Sinon, il y a eu le pasteur, c'est tout. Tous les autres, ils étaient comme moi. C'était une situation de chaos, de terreur, de désolation. Les gens tuaient comme ça, sans raison, sans justification. C'était épouvantable. Ce qui s'est passé, c'est incompréhensible. C'était l'apocalypse. On croit qu'un jour, la fin du monde viendra, mais en vérité, elle a déjà eu lieu. Quand un être humain tue un autre être humain, comme ça, sans raison, c'est déjà la fin du monde.